Chapitre 38. C'était tellement exceptionnel que Mademoiselle Raymond en resta suffoquée. Pour tout dire, depuis qu'elle travaillait pour le maire d'arrondissement, ça ne s'était même jamais vu. Trois fois qu'elle traversait la pièce sans qu'il la reluque, bon ça encore, mais trois fois qu'elle faisait le tour de son bureau sans qu'il fourre la main sous sa jupe, index dressé. Depuis quelques jours, Labourdin n'était plus lui-même, regard vitreux, bouche pendante. Mademoiselle Raymond aurait exécuté la danse des sept voiles, il s'en serait même pas aperçu. Il avait le teint blanc, se déplaçait lourdement comme un homme qui s'attend à une attaque cardiaque d'un instant à l'autre. Tant mieux, pensa-t-elle, crève charogne. La soudaine déliquescence de son patron était le premier réconfort qu'elle connaissait depuis son embauche, une bénédiction. Labourdin se leva, enfila lentement sa veste, prit son chapeau et sortit de son bureau sans un mot. Un pan de sa chemise ressortait par-dessus le pantalon, le genre de détail qui transforme n'importe quel homme en pouilleux. Dans sa démarche pesante, il y avait quelque chose du bovin qui part à l'abattoir. À l'hôtel Péricourt, on lui annonça que monsieur n'était pas là. « Je vais attendre, » dit-il. Puis il poussa la porte du salon, s'effondra dans le premier canapé, l'œil vide, et c'est dans cette position que, trois heures plus tard, M. Péricourt le trouva. « Qu'est-ce que vous faites là, vous ? » demanda-t-il. L'entrée de M. Péricourt le plongea dans la confusion. « Ah, président, président !» dit Labourdin en essayant de se lever. Voilà tout ce qu'il trouva, persuadé qu'avec ce mot de président, il avait tout dit, tout expliqué. Malgré son agacement, M. Péricourt avait vis-à-vis de Labourdin des bontés d'agriculteur. « Expliquez-moi ça !» lui disait-il parfois avec cette patience qu'on ne prodigue qu'aux vaches et aux imbéciles. Mais ce jour-là, il resta glacial, contraignant Labourdin à redoubler d'énergie pour s'extraire du canapé et expliquer « Comprenez bien, président, rien ne laissait supposer, vous-même, j'en suis certain, et tout le monde, mais comment imaginer une chose pareille, etc. etc. » Son interlocuteur laissa couler le flot de mots inutiles. Il n'écoutait d'ailleurs plus. Pas la peine d'aller plus loin. Labourdin, lui, poursuivit ses lamentations. « Ce Jules d'Épremont, président, imaginez-vous qu'il n'existe pas !» Il en était presque admiratif. « Enfin quoi, un membre de l'Institut qui travaille aux Amériques, comment ça peut ne pas exister? Ces esquisses, ces dessins admirables, ce projet sublime ont bien été réalisés par quelqu'un tout de même !» Arrivé à ce stade, Labourdin avait impérativement besoin d'une relance, faute de quoi son esprit se mettait à tourner en boucle, ça pouvait durer des heures. « Et donc, il n'existe pas, » résuma M. Péricourt. « C'est ça !» clama Labourdin, sincèrement heureux d'être si bien compris. « L'adresse, 52 rue du Louvre, imaginez-vous qu'elle n'existe pas non plus. Et savez-vous ce que c'est ?» Silence. Quelles que soient les circonstances, Labourdin raffolait des devinettes. Les crétins adorent les effets. « La poste !» rugit-il. « Le bureau de poste, il n'y a pas d'adresse, c'est une boîte postale. » Il était ébloui par la finesse du stratagème. « Et c'est maintenant que vous vous en apercevez. » Labourdin interpréta le reproche comme un encouragement. « Exactement, président. Remarquez !» Il leva l'index pour souligner la subtilité de son approche. « J'avais un petit doute. Certes, on avait reçu le récépissé. Une lettre tapée à la machine qui expliquait que l'artiste était aux Amériques et tous ces dessins que vous connaissez. Mais enfin, moi... » Il fit alors une moue dubitative accompagnée d'un mouvement de tête destiné à exprimer ce que les mots étaient impuissants à traduire, sa profonde perspicacité. « Et vous avez payé ?» coupa M. Péricourt, glacial. « Mais comment voulez-vous ? Mais bien sûr, président, que nous avons payé !» Il était formel. « Sans règlement, pas de commande ! Et sans commande, pas de monument ! On ne pouvait pas faire autrement, nous avons réglé la compte aux souvenirs patriotiques, bien obligé !» Joignant le geste à la parole, il extirpa de sa poche une sorte de journal. M. Péricourt le lui arracha. Il le feuilleta nerveusement. Labourdin ne le laissa même pas poser la question qu'il avait sur les lèvres. « Cette société, elle n'existe pas ! C'est une société !» Il s'arrêta brutalement, Ce mot qu'il avait pourtant tourné et retourné depuis 2 jours venait de lui échapper. « C'est une société !» reprit-il, parce qu'il avait remarqué que son cerveau fonctionnait un peu comme un moteur d'automobile, plusieurs coups de manivelle et parfois ça redémarrait. « Imaginaire, c'est ça, imaginaire !» Il sourit de toutes ses dents, passablement fier d'avoir surmonté cette adversité linguistique. M. Péricourt continuait de feuilleter le mince catalogue. « Mais, dit-il, ce sont là des modèles industriels. « Oui, risqua Labourdin, qui ne voyait pas où le président voulait en venir. « Labourdin, nous avons commandé une œuvre originale, non ?»« Ah !» hurla Labourdin, qui avait oublié cette question et se souvenait d'avoir préparé la réponse exacte, cher président, et très originale même. C'est que, voyez-vous, M. Jules Despremont, membre de l'Institut, est l'auteur à la fois de modèles industriels et d'œuvres comme qui dirait sur mesure. Oh, il sait tout faire, cet homme-là. Il se rappela alors qu'il parlait d'un être purement fictif. Enfin, il savait tout faire, ajouta-t-il en baissant la voix, comme s'il s'agissait d'un artiste mort et, de ce fait, dans l'impossibilité d'honorer une commande. En feuilletant les pages du catalogue et en regardant les modèles présentés, M. Péricourt prenait la dimension de l'escroquerie nationale. Le scandale allait être terrible. Sans égard pour Labourdin qui remontait son pantalon à 2 mains, il tourna les talons, regagna son bureau et se trouva face à l'étendue de son échec. Tout autour de lui, les dessins encadrés, les esquisses, les projections de son monument hurlaient son humiliation. Ce n'était pas tant l'argent dépensé, ni même pour un homme comme lui de s'être fait gruger, non. Dans ce qu'il retournait, c'est qu'on se fût moqué de son malheur. Son argent, sa réputation passe encore, il en avait de reste, et le monde des affaires lui avait appris combien la rancune est mauvaise conseillère. Mais ridiculiser son malheur revenait à mépriser la mort de son fils, comme lui-même autrefois. Ce monument aux morts, au lieu de réparer tout le mal qu'il avait infligé à son fils, venait doubler la mise. L'expiation espérée tournait au grotesque. Le catalogue du souvenir patriotique proposait une gamme d'articles industriels avec une promotion alléchante. Combien en avait-on vendu de ces monuments imaginaires? Combien de familles avaient versé de l'argent pour ces chimères? Combien de communes s'étaient fait voler comme au coin d'un bois, victimes de leur naïveté? Qu'on pût avoir l'audace, qu'on pût même avoir l'idée de détrousser tant de gens malheureux, c'était proprement renversant. M. Péricourt n'était pas un homme suffisamment généreux pour se sentir proche des victimes qu'il pressentait en nombre, ni avoir envie de leur venir en aide. Il ne pensait qu'à lui, à son malheur à lui, à son fils à lui, à son histoire à lui. Ce dont il souffrait, c'était d'abord que le père qu'il n'avait pas été, jamais il ne parviendrait à le devenir. Mais, de manière plus égotiste encore, il était vexé comme s'il avait été visé personnellement. Ceux qui avaient payé pour ces modèles industriels avaient été les dindons d'une mystification générale. Tandis que lui, avec sa commande d'un monument sur mesure, se sentait l'objet d'une extorsion individuelle, cette défaite blessait intensément son orgueil. Fourbu, écœuré, il s'assit à son bureau et rouvrit le catalogue qu'il avait, sans y penser, froissé entre ses mains. Il lut attentivement la longue lettre que l'escroc adressait aux maires des villes et des villages, propos astucieux, rassurants, d'allure tellement officielle. M. Péricourt s'arrêta un instant sur l'argument qui, probablement, avait assuré la réussite de l'abus de confiance, cette remise exceptionnelle, forcément très attractive pour les budgets modestes, l'effet d'aubaine, et même cette date du 14 juillet, si symbolique. Il releva la tête, tendit le bras et consulta son calendrier. Les escrocs laissaient peu de temps aux clients pour réagir ou vérifier à qui ils avaient affaire, pour peu qu'ils aient reçu un récépissé en bonne et due forme en échange de leur commande, ils n'avaient pas de raison de s'inquiéter avant le 14 juillet, date du terme de la prétendue promotion. Nous étions le 12. Ce n'était plus qu'une question de jour. Puisque personne ne parlait d'eux, les escrocs attendraient à coup sûr d'avoir raflé les dernières avances avant de s'enfuir. Quant aux clients, les plus avisés ou les plus suspicieux chercheraient bientôt à vérifier que leur confiance avait été bien placée. Qu'allait-il alors se passer? Le scandale éclaterait dans un jour ou deux ou trois. Ce n'était peut-être même qu'une question d'heure. Et ensuite, les journaux rivaliseraient d'émotion, la police serait sur les dents, les députés outragés au nom de la nation se draperaient dans leur vertu patriotique. « Foutaise !» murmura M. Péricourt. « Et quand bien même on retrouverait ces voyous, qu'on les arrêterait, ce serait quoi? 3, 4 années d'instruction, un procès ? » D'ici là, tout le monde se serait calmé, même moi, pensa-t-il. Cette idée ne l'apaisa pas. Demain ne comptait pas, c'est aujourd'hui qu'il souffrait. Il referma le catalogue, le lissa du plat de la main. Jules d'Épremont et ses complices, lorsqu'ils seraient arrêtés, s'ils l'étaient un jour, cesseraient d'être des individus. Ils deviendraient des phénomènes d'actualité, des curiosités comme Raoul Villain l'avait été, comme Landru le devenait. Livrés à la furie générale, les coupables n'appartiendraient plus à leurs victimes. Et lui, Péricourt, qui pourrait-il haïr lorsque ces bandits seraient la propriété de tout le monde? Pire, son nom se retrouverait au centre de ce procès. Et si par malheur, il avait été le seul à commander une œuvre sur mesure, serait-il le seul dont on dirait « Voyez celui-là, il a mis 100 000 francs dans le commerce, le voilà Gros-Jean comme devant ?» Il suffoqua à cette idée car il passerait aux yeux de tous pour un pigeon, un jobard. Lui, l'industriel couronné de succès, le banquier redouté, s'était fait estamper dans les grandes largeurs par des escrocs de bas étage. Les mots lui manquaient. La blessure d'amour-propre l'aveugla. Il se passa en lui quelque chose de mystérieux et de définitif. Les hommes qui avaient commis ce crime, il les voulait. Comme rarement il avait désiré quelque chose, avec une ardeur folle. Il ne savait pas ce qu'il en ferait, mais il les voulait. Voilà tout. Des crapules, une bande organisée. Avait-il déjà quitté le pays? Peut-être pas. Pouvait-on les retrouver avant la police? Il était midi, il tira le cordon et ordonna qu'on appelle son gendre, qu'il vienne. Toute affaire cessante.